Nos bras s'effleuraient quand il réparait le bastingage du bateau. Lorsque nous étions assis, ma robe recouvrait ses pieds. Il avait la peau chaude et légèrement burinée. Parfois, je laissais tomber un objet pour qu'il le ramasse et que nos mains se frôlent. Ce jour-là, il était agenouillé sur la plage, allumant un feu pour faire cuire son déjeuner. C'était encore l'un de mes spectacles favoris, ce miracle simple et mortel du contact de la pierre et du petit bois. Ses cheveux lui tombaient plaisamment sur les yeux et ses joues luisaient à la lumière des flammes. Je me surpris à penser à mon oncle qui lui avait offert ce cadeau. « Je l'ai rencontré un jour » m'écriai-je. Glaucos avait embroché un poisson pour le rôtir. « Qui ça ?»«
Prométhée » répondis-je. « Quand Zeus l'a puni, je lui ai apporté du nectar. »
Il leva la tête. « Prométhée » répéta-t-il.
« Oui. »
En général, il n'était pas si lent.
« Celui qui porte le feu. »
« Cette histoire date d'il y a 10 générations. »«
Plus que ça. Attention, ton poisson !»
La brochette lui avait glissé entre les doigts et le poisson noircissait sur les charbons ardents. Il n'essaya pas de le récupérer. Son regard était rivé sur moi. « Et pourtant, tu as mon âge !» Mon visage l'avait induit en erreur. Il avait l'air aussi jeune que le sien. Je m'esclaffai.
« Non, ce n'est pas vrai !»
Il était à moitié avachi sur un côté, ses genoux contre les miens. Tout à coup, il se redressa d'un bond, s'écartant de moi si vite que je sentis le froid à l'endroit où il était quelques secondes auparavant. Cela me surprit.
« Ces années ne sont rien, » expliquai-je. « Je n'en ai pas tiré parti. Tu connais autant le monde que moi. »
Je cherchais sa main. Il la retira brutalement.
« Comment peux-tu dire ça? Quel âge as-tu? 100 ans? 200 ?»
Je faillis me remettre à rire, mais son cou était rigide, ses yeux écarquillés. Entre nous, le poisson fumait sur le feu. Je lui en avais dit si peu sur ma vie. Qu'y avait-il à raconter? Toujours les mêmes cruautés, les mêmes moqueries dans mon dos. À cette époque-là, ma mère était de spécialement mauvaise humeur. Mon père s'était mis à lui préférer son jeu de dames et son venin se déversait sur moi. Elle faisait une moue dédaigneuse dès qu'elle me voyait.
Circé est ennuyeuse comme un caillou. Circé a moins d'esprit que la terre nue. Ses cheveux sont aussi emmêlés que le pelage d'un chien. Si je suis encore obligée d'entendre sa voix cassée une fois de plus. De tous mes enfants, pourquoi faut-il qu'il ne reste qu'elle? Personne d'autre n'en veut.
Si mon père l'entendait, il n'en donnait aucun signe, se bornant à bouger ses pions de ci, de là. Dans le passé, je me serais retirée sans bruit dans ma chambre, les joues striées de larmes. Mais depuis l'arrivée de Glaucos, ses attaques me faisaient le même effet que des abeilles sans dard.
« Je suis désolée, m'excusai-je. C'était juste une plaisanterie idiote. Je ne l'ai jamais rencontrée. J'aurais bien aimé, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Nous avons le même âge. »
Lentement, il se décrispa. Il expira longuement.
« Ah, tu imagines un peu, si tu avais vraiment été vivante alors ?»
Il termina son repas, en jeta les restes aux mouettes, qu'il fit ensuite tournoyer dans le ciel pour les chasser. Il se retourna vers moi avec un sourire, se détachant sur les vagues argentées en arrière-plan, les épaules hautes sous sa tunique. Peu importe le nombre de feux que je le regardais allumer, je ne mentionnais plus jamais mon oncle. Un jour, le bateau de Glaucos arriva tard. Il ne jeta pas l'ancre et resta debout sur le pont avec un air affligé et sévère. Il avait un bleu sur la joue, sombre comme une vague d'orage. Son père l'avait frappé. Ma gorge se contracta.
« Oh, il faut que tu te reposes !» Assieds-toi à mes côtés, je vais t'apporter de l'eau.
Non, protesta-t-il d'une voix tranchante que je n'avais encore jamais entendue. Ni aujourd'hui ni jamais. Père dit que je suis un fainéant, que notre pêche est insuffisante. Nous allons mourir par ma faute.
Viens quand même t'asseoir et je t'aiderai. Tu ne peux rien pour moi. Tu me l'as dit toi-même. Tu n'as aucun pouvoir. »
Je regardais son bateau s'éloigner avant de tourner frénétiquement les talons pour partir en courant vers le palais de mon grand-père. Je traversais ces passages voûtés jusqu'aux appartements des femmes, avec leur fracas de navettes à tisser et de gobelets, mêlés au tintement des bracelets qui s'entrechoquaient sur les poignets. Je dépassais les naïades, les néréides et les dryades en visite, jusqu'aux tabourets en chêne à l'avant de la pièce où officiait ma grand-mère. Éminente nourrice des eaux du monde, elle s'appelait Tétis et était née, comme son mari, à l'aube des temps, de la terre-mère elle-même. Sa tunique formait une mare bleue à ses pieds et autour de son cou, telle une écharpe, s'enroulait un serpent d'eau. À côté d'elle trônait le métier à tisser doré abritant son ouvrage. Son visage était âgé sans être flétri. D'innombrables filles et fils étaient nés de sa matrice fertile et on lui amenait encore leurs descendants à bénir. Je m'étais moi-même agenouillée devant elle une fois, peu après ma naissance. Elle avait touché mon front du bout de ses doigts légers. « Bienvenue, mon enfant. » Je m'agenouillai de nouveau à ses pieds. « Je suis Circé, la fille de Persée. Il faut que tu m'aides. Il y a un mortel qui a besoin de poissons de la mer. Je ne peux pas le bénir, mais toi, tu en as le pouvoir. »
« Est-il noble ?»«
Il l'est par nature. » Pauvre en ce qui concerne ses biens, mais riche en énergie et en courage, et aussi brillant qu'une étoile.
Et que peut offrir ce mortel en échange?
M'offrir à moi?
Elle secoua la tête. Mon petit, ils doivent toujours offrir quelque chose, même si c'est peu, même si ce n'est que du vin qu'ils versent à ta source, ou sinon ils oublieront d'être reconnaissants ensuite.
Je n'ai pas de source. Et je n'ai pas besoin de gratitude. S'il te plaît, je ne le reverrai jamais si tu ne m'aides pas. »
Elle m'examina en soupirant. Elle avait dû entendre des histoires semblables des milliers de fois. C'est une chose que mortels et dieux ont en commun. Lorsque nous sommes jeunes, nous croyons être les premiers au monde à ressentir chaque sentiment. « Je vais exaucer ton vœu et remplir ces filets. » Mais en contrepartie, je veux t'entendre dire que tu ne coucheras pas avec lui. Tu sais que ton père pense pouvoir te trouver un meilleur parti qu'un pêcheur.
Je le jure. »
Il arriva sur son bateau qui effleurait les vagues en criant mon nom. Les mots se bousculaient dans sa bouche. Il n'avait même pas eu besoin de tendre ses filets, m'expliqua-t-il. Les poissons sautaient d'eux-mêmes sur le pont de son bateau, aussi gros que des vaches. Son père se calma, la taxe fut payée, avec un crédit pour l'année suivante. Il s'agenouilla devant moi, tête baissée. «
Merci, déesse !»
Je le relevai. « Ne te mets pas à genoux, c'est l'œuvre du pouvoir de ma grand-mère. »
« Non !»
Il me prit les mains.
« C'était toi, toi qui l'as persuadé. Circé, tu es un miracle, la bénédiction de ma vie, et tu m'as sauvée. »
Il pressa ses joues chaudes contre ma main. Ses lèvres frôlèrent mes doigts.
« Si seulement j'étais un dieu, » souffla-t-il, « alors je pourrais te remercier comme tu le mérites. »
Je laissai ses cheveux bouclés reposer sur mes poignets. J'avais envie d'être une vraie déesse pour pouvoir lui offrir des baleines sur un plateau d'argent et qu'en retour il ne me laisse jamais partir. Tous les jours, nous restions assis ensemble, à parler. Il était plein de rêves, espérant que, lorsqu'il serait plus vieux, il aurait son propre bateau, sa propre chaumière et non plus celle de son père. « Je garderai toujours un feu allumé pour toi, si tu me le permets. Je préférerais que tu me gardes une chaise pour pouvoir venir te parler. » Il rougit, et moi aussi. J'étais si ignorante alors. Je n'avais jamais traîné avec mes cousins, ces dieux larges d'épaules et ces nymphes agiles quand ils parlaient d'amour. Je ne m'étais jamais éloignée discrètement dans un coin avec un prétendant. J'en savais si peu que j'étais incapable d'exprimer mes désirs. Si je posais ma main sur la sienne, si je penchais mes lèvres vers lui pour un baiser, que se passerait-il ?
Il me regardait. Son visage était pareil au sable, reflétant 100 expressions différentes. « Ton père !» commença-t-il en bafouillant un peu, car parler d'Hélios le rendait toujours nerveux. « Il va te choisir un mari ?»«
Oui. »
« Quel genre de mari ?» Je crus que j'allais pleurer. J'avais envie de me coller contre lui et de lui jurer que je voulais que ce soit lui, mais mon serment se dressait entre nous. Je me forçais donc à lui dire la vérité, que mon père cherchait des princes ou peut-être un roi s'il était étranger. Il baissa les yeux sur ses mains. « bien sûr, tu lui es très cher. » Je ne le détrompais pas. Je retournai dans les appartements de mon père et lui demandai s'il était possible de changer un mortel en dieu. Hélios plissa le front avec irritation sans quitter son jeu de dame du regard. « Tu sais bien que non, sauf si c'est déjà écrit dans ses étoiles. Même moi, je ne peux pas modifier les lois des parcs. » Je n'en dis pas davantage. Mes pensées se bousculaient fébrilement. Si Glaucos ne devenait pas un dieu, il vieillirait. S'il vieillissait, il mourrait. Et il arriverait un jour où je reviendrais sur ce rivage, et pas lui. Prométhée me l'avait dit, sans que je comprenne. Quelle idiote j'avais été. Une triple idiote. Paniquée, je courus trouver ma grand-mère.
« Cet homme !»
lâchai-je en m'étranglant presque.
« Il va mourir !»
Son tabouret en chêne était drapé de ses tissages les plus doux. Les fils entre ses doigts étaient aussi verts que les pierres de la rivière. Elle les enroulait autour de sa navette. « Oh, ma petite fille !» s'exclama-t-elle. « Bien sûr qu'il mourra. Il est mortel, et c'est ce qui les attend tous. » Les naïades luisantes s'étaient détournées de leur conversation pour nous écouter. Je poursuivis.
Il faut que tu m'aides. Ô grande déesse, ne peux-tu pas le prendre dans ton palais et le rendre éternel?
Aucun dieu n'a ce pouvoir.
Je l'aime. Il doit y avoir un moyen.
Elle soupira. Sais-tu combien de nymphes avant toi ont espéré la même chose pour être déçues ensuite? Ces nymphes m'importaient peu. Elles n'étaient pas la fille d'Hélios, à l'enfance bercée par des histoires de fin du monde.
Il n'existe pas quelque... je ne connais pas le nom... un expédient, un marché avec les parcs, un tour, un pharmacone.
C'était le mot qu'Aétès avait utilisé pour désigner ces herbes au pouvoir merveilleux issues du sang divin tombé sur la terre. Le serpent de mer autour du cou de ma grand-mère se desserra et pointa une langue noire dans sa bouche en forme de flèche. La voix de Thétis était sourde et chargée de colère. « Comment oses-tu en parler ?» Ce changement de ton soudain me surprit. « Parler de quoi ?» Mais elle s'était déjà levée, dépliant sa haute silhouette devant moi. « Mon enfant, j'ai fait tout ce que je pouvais pour toi, et ça s'arrête là. Sors d'ici, et que je ne t'entende plus jamais raconter ces horreurs. » Mon cerveau bouillonnait, et ma bouche était emplie d'un goût aussi âcre que si j'avais bu du vin pur. Je rebroussai chemin au milieu de toutes ces banquettes, de tous ces fauteuils, passant devant les jupes de naïades qui murmuraient d'un air méprisant.
« Elle croit que parce qu'elle est la fille du soleil, elle a tout simplement le droit de bouleverser le monde afin de se faire plaisir. »
J'étais trop furieuse pour ressentir la moindre honte. C'était vrai. Non seulement j'allais bouleverser le monde, mais le démolir, le brûler, commettre n'importe quelle vilenie, pourvu que Glaucos reste à mes côtés. Néanmoins, je n'arrivais pas à oublier l'expression que j'avais lue sur les traits de ma grand-mère quand j'avais prononcé ce mot, pharmacone. Ce n'était pas une expression que je connaissais bien chez les dieux. En revanche, j'avais vu Glaucos quand il parlait de la taxe, de ses filets vides et de son père. J'avais commencé à comprendre ce qu'était la peur. Qu'est-ce qui pouvait donc effrayer un dieu? Je connaissais aussi cette réponse. Un pouvoir supérieur au sien. Ma mère m'avait tout de même appris quelque chose en fin de compte. J'arrangeai mes cheveux en bouclette et revêtis ma plus jolie robe, mes sandales les plus chatoyantes. Je me rendis au banquet de mon père, où tous mes oncles étaient rassemblés, étendus sur leurs banquettes pourpres. Je leur versai du vin, leur souris en les regardant dans les yeux, enroulai mes bras autour de leur cou comme une gerbe de fleurs. « Oncle Protée, » dis-je, c'était celui qui avait de la viande de phoque entre les dents, « tu es courageux, tu as combattu vaillamment à la guerre. Ne vas-tu pas me raconter ces batailles et où elles ont eu lieu ? Et toi, oncle Néré, tu étais le seigneur de la mer bien avant que Poséidon l'Olympien ne te dépouille de ton titre. Il y a longtemps que j'entends parler de vos hauts faits. Racontez-moi où vous avez versé le plus de sang. » Je les encourageai à raconter ces histoires. J'appris les noms de ces nombreux lieux qui avaient été ensemencés du sang des dieux et leurs emplacements exacts. Finalement, ils en mentionnèrent un qui se situait non loin de la grève de Glaucos.